quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien. Au menu aujourd'hui, on va parler agriculture. Ce sera en seconde partie d'émission. Il y aura bien sûr vos découvertes musicales, votre agenda. Mais tout de suite, on parle Jeux Olympiques en compagnie de Pauline Graton, qui est chargée de mission de suivi stratégique label Terre de Jeux 2024 à Grand Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, puisqu'on a appris ça il y a quelques jours, semaines maintenant, que nous on allait accueillir la délégation camerounaise à Poitiers. Alors c'est un petit peu, j'imagine, un aboutissement pour toute cette préparation de Poitiers à ces JO.
Oui, c'est vrai que dans la stratégie autour des JO qui a été posée au départ, l'un des axes, c'était l'accueil de délégations en préparation. Donc ça faisait partie des ambitions et en concrétisant cet accueil de la délégation camerounaise paralympique, on a signé la convention fin mars et ben voilà, c'est l'aboutissement de ce travail et c'est un objectif d'atteint.
Alors, comment s'est passé justement, comment on arrive à cet objectif? Poitiers était candidate à l'accueil de ces délégations et avait identifié certains sites, hein, c'est ça?
Oui, alors les collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 ont pu référencer des équipements qui sont appelés centres de préparation aux Jeux, donc suivant un cahier des charges établi par Paris 2024 et les fédérations sportives. Donc au niveau de Grand Poitiers, on a 5 équipements qui ont été référencés. Et c'est finalement ce référencement qui nous a fait connaître auprès du comité paralympique camerounais, qui nous a sollicité via ce catalogue pour envisager une préparation sur site. Donc la première étape était celle-ci.
Et donc les 5 équipements, on peut peut-être les citer?
Oui, alors nous on a le stade Paul Rébeillot, le complexe Lawson Body, la piscine de la Ganterie, le complexe sportif Michel Amand et la salle omnisport Jean-Pierre Garnier.
Et puis autour, il y a aussi le Krebs et l'Arena qui peuvent participer aussi à accueillir ces délégations.
Exactement, il y a ces deux équipements complémentaires qui ne sont pas portés par Grand Poitiers, mais qui sont sur le territoire, référencés centres de préparation aux Jeux. Et à noter aussi que les centres sont une entrée pour se mettre en relation avec les comités, mais il n'y a pas d'obligation que la préparation se fasse uniquement dans ces centres, s'il y a d'autres équipements qui peuvent répondre aux besoins. Et c'est d'ailleurs le cas dans le cadre de ce conventionnement avec le Cameroun.
Alors, comment se sont passés les premiers échanges? Voilà, ils vous ont identifié, ils vous ont contacté. Comment ça se passe ensuite?
Alors, après le premier contact, nous, ce qu'on a transmis, c'est une promotion, une proposition de ce qu'il y avait sur le territoire. Et on a M. Essindi, donc, qui est chargé de mission Jeux Paralympiques au comité, qui a fait une visite sur site au mois de juin 2023. Donc on a essayé de l'accueillir dans les meilleures conditions, de lui présenter les différents équipements sportifs et hôteliers du territoire. Et puis, suite à cette première accueil, il y a eu une deuxième phase d'échange, on peut dire de négociation sur ce qui pouvait être proposé. Et voilà, l'offre de Poitiers a été attractive à leurs yeux, il a été bien accueilli en juin et il y a une deuxième visite du coup qui a été effectuée le mois dernier, fin mars, une visite qui était simplement, on va dire, de contrôle avec le déplacement du président et qui s'est finalisée par la signature de la convention de partenariat.
Alors comment va se passer ce stage des équipes paralympiques camerounaises?
Alors, ils vont être sur le territoire du 12 au 27 août 2024, donc ce qui correspond aux 2 semaines qui précèdent le lancement des Jeux Para, parce qu'ils sont accueillis au village olympique le 28 août. Donc concrètement, pendant 2 semaines, les athlètes vont se préparer sur le territoire. Pour le para-athlétisme, ce sera au stade Paul Rébeillot. Et pour les autres disciplines, donc le para-haltérophilie, para-badminton, para-taekwondo, ils seront en entraînement sur le complexe universitaire au gymnase du C7. Donc il y a un vrai partenariat avec l'université sur cet accueil. Et puis hébergés en centre-ville de Poitiers. Donc avec une logistique à prévoir et, sur ces 15 jours entre l'hébergement, la restauration, les lieux d'entraînement. Et puis, une activité touristique aussi, on va essayer de leur faire découvrir le territoire et sur les journées de récupération, de pouvoir justement leur changer un petit peu les idées aussi.
C'est ça, c'est aussi toute cette stratégie de territoire, ça permet de conforter aussi ces partenariats qui existent déjà, mais qui sont là peut-être renforcés.
Oui, tout à fait. On va avoir une délégation qui est relativement petite. Le comité paralympique camerounais est jeune sur le plan paralympique. Ils se sont lancés en 2012 à Londres. Donc on aura peut-être une vingtaine de personnes donc sur les quatre disciplines citées. Et malgré ça, ça demande tout un travail en réseau, avec notamment l'office de tourisme qui joue un rôle crucial sur la partie hébergement, restauration, activités touristiques, un partenariat avec l'université sur la mise à disposition des équipements. Voilà, c'est tout un écosystème qui est intégré. On est accompagné également par la Sorégie qui accompagne financièrement le projet Terre de Jeux et qui nous aide justement à mettre les athlètes dans les meilleures conditions. On travaille en étroite collaboration avec le CREPS aussi, donc même si l'accueil ne se fait pas au CREPS, voilà, il y a ce travail de réseau. Et ce genre d'accueil fédère aussi les différents acteurs.
Et dans cette convention, à quoi s'engage le Grand Poitiers ? Est-ce que vous allez les accompagner aussi pendant leur séjour ? Il y a des mises à disposition autres que les équipements ?
Alors la convention prévoit effectivement, comme vous le soulignez, la mise à disposition gratuite des équipements sportifs. On intervient aussi sur toute la gestion transport depuis Paris, pour retourner sur Paris et puis sur place, entre les différents sites. Donc évidemment, ça nécessite aussi de la mise à disposition humaine pour assurer à la fois l'accompagnement en amont de leur venue. Donc ça, c'est mon travail en partie. Et puis, il y aura le recrutement d'un team manager sur l'été pour assurer aussi justement la coordination de leur venue. Donc c'est aussi un engagement humain de Grand Poitiers pour cela. Voilà, on va dire sur les contreparties et aussi une activité touristique, comme je vous l'ai dit.
Donc une petite délégation, est-ce que Grand Poitiers peut espérer en accueillir d'autres ou est-ce que c'est à la taille de Grand Poitiers et il n'y aurait pas forcément de la place pour d'autres délégations ?
Je pense que c'est, voilà, on est dimensionné pour ce type d'accueil, on est ravis de pouvoir le concrétiser. Maintenant, dans l'objectif, il y a aussi la volonté d'accueillir une délégation préparation olympique. Comme on n'est pas sur la même période, on a cette possibilité-là. On a ciblé le volet comme discipline prioritaire. Maintenant, c'est une discipline où c'est compliqué d'attirer des délégations dans la mesure où il y a seulement 12 équipes qualifiées chez les hommes et 12 chez les femmes. Et que la moitié s'est déjà qualifiée et l'autre moitié, ça se décide en mois de juin. Donc sur un timing assez tardif aussi. Malgré tout, on reste en alerte sur les opportunités, sur le volet prioritairement, mais aussi sur d'autres disciplines où on sait que les enjeux de qualification se font maintenant.
Et pourquoi c'est important pour un territoire comme Grand Poitiers d'accueillir une délégation ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, je pense qu'il y a ce côté, on veut faire vivre les Jeux sur les territoires. Le fait d'avoir des athlètes, c'est palpable pour tout le monde. C'est important, on va dire, pour le rayonnement du territoire. Et ce à quoi on est attaché et ce qui est négocié dans les conventions, c'est qu'il y ait des entraînements qui soient ouverts au public. Parce qu'accueillir une délégation en vase clos, finalement, c'est sûr qu'on peut se poser la question de l'intérêt de toute cette énergie, de tous ces moyens déployés pour l'accueil. Donc c'est vraiment de se dire aussi, il y aura des temps d'échange avec le public. Nos habitants vont pouvoir rencontrer des athlètes à un moment très important de leur carrière et de leur vie de sportif. Donc voilà, c'est aussi un petit peu le rêve olympique sur le territoire.
Donc Poitiers sera un petit peu aux couleurs du Cameroun pendant ces 10 jours, enfin cette quinzaine.
Effectivement, au-delà de la partie purement sportive, et ça a été aussi impulsé par le comité paralympique camerounais, ils veulent organiser 3 jours de ce qu'ils appellent les journées camerounaises, avec justement la promotion des produits camerounais, des animations culturelles. Également autour de la musique, de la danse. Donc il y a cette vraie volonté de dépasser le simple accueil sportif et de se mettre aux couleurs, comme vous l'avez dit, du Cameroun pendant ce séjour.
Et puis pour terminer, peut-être Pauline Gratteau, revenir sur le passage de la flamme. Là, ça arrive, hein, là c'est le prochain événement sur lequel vous travaillez, j'imagine.
Oui, tout à fait. Effectivement, je précisais que l'accueil de délégation, c'est un axe stratégique qui avait été déterminé. L'autre, c'est l'animation du territoire. autour des JO. On a un gros morceau qui arrive, donc samedi 25 mai, avec le passage de la flamme. Une journée qui s'organise au-delà du convoi officiel du passage, avec tout un programme d'animation, le déploiement d'un village au Triangle d'Or, qui est le lieu de départ de la flamme sur Poitiers, et un village d'animation Place Leclerc, avec la mobilisation beaucoup d'acteurs sportifs, ludiques et culturels pour vraiment faire vivre aux habitants aussi les Jeux à travers ce passage.
Merci beaucoup Pauline Graton, donc chargée de mission suivi stratégique label Terre de Jeux 2024 à Grand Poitiers, d'être venue nous parler de l'accueil du Comité National Paralympique Camerounais. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique. Eux nous viennent du Zimbabwe. Ils ouvrent une faille spatio-temporelle qui rapproche deux genres des années 80, apparus à des endroits différents sur la planète. D'un côté, les guitares carillonnantes et saccadées de la JIT, cette musique populaire au Zimbabwe apparentée à la rumba congolaise. Et de l'autre, les boîtes à rythme et les synthèses de la New Wave européenne.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
Il est toi en plus.
Et on parle maintenant d'un événement qui va se passer à la fin du mois, les 27 et 28 avril. C'est la 5e édition de la Vienne de Ferme en Ferme. Et pour en parler, on accueille Théo Guillon de la ferme Graines de Pépinière. Bonjour.
Bonjour.
Et Laurence Gauthier de la ferme La Folie Bergère. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là pour donc cet événement qui nous permet de rencontrer les agriculteurs et agricultrices. Justement, quel est pour vous l'objectif de cet événement? Pourquoi vous avez décidé d'y participer vous-même?
Et bah, du coup, de rentrer justement en contact avec les citadins, ceux qui ne connaissent pas forcément l'agriculture. Donc, c'est le moment de pouvoir présenter ce qu'on fait, notre travail au quotidien. Et pour eux, d'aller dans des fermes, parce que ce n'est pas forcément facile de pouvoir y accéder. Donc, voilà, c'est le moment de faire le tour des fermes dans la Vienne.
Et en quoi c'est important, peut-être encore plus cette année? On sait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation des agriculteurs. Justement, un lien peut-être qui se ressoudait avec la population, c'est important maintenant de les voir dans un autre cadre? Je ne sais pas.
Oui, oui, je pense que c'est important justement de pouvoir dialoguer sur des choses concrètes, parce qu'il y a eu pas mal de choses effectivement à la télé, et là c'est d'aller concrètement sur les fermes et de pouvoir expliquer notre quotidien, et eux s'ils ont des questions, nous pouvoir y répondre concrètement.
Alors, ce sont donc les CIVAM qui organisent ces journées dans toute la France. Hein. Peut-être qu'il faut repréciser justement ce que c'est que ces CIVAM et la démarche des CIVAM.
Oui, donc les CIVAM, ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Concrètement, c'est un réseau, enfin, ce sont des réseaux d'agriculteurs sur des territoires pour échanger, partager, se former autour de la thématique du développement durable.
Ça, c'est qu'il y a quand même une fonction politique à ces CIVAM, c'est la question du développement durable. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver lors de ces rencontres ?
Eh bien oui, sur chaque ferme. En fait, il y a, là dans la Vienne, on a 4 secteurs, donc le Châtel-Rodet, le Chauvinois, le Mont-Morillonnais et le Seuil du Poitou qui correspond au sud de Poitiers. Donc chaque secteur a un peu ses spécificités. Et donc nous, dans les CIVAM, en fait, on travaille par... sur ces groupes-là, sur des thématiques en fait qui sont propres à chaque territoire.
Et en quoi justement vous développez une agriculture innovante ou voilà qui se tourne vers l'avenir?
Alors, on aura tous une réponse différente à donner parce que nous, on fait voilà, concrètement, on élève des moutons, on élève des poules, on fait du maraîchage et on a aussi un verger. Donc, on est plusieurs sur la ferme. Mais déjà, nous, au sein de la ferme, nos actions sont vraiment très différentes en fonction de ce qu'on fait. Mais pour un exemple, par exemple, pour les moutons, on a planté beaucoup d'arbres, on fait de l'agroforesterie, on fait du pâturage tournant dynamique. D'ailleurs, c'est l'arbre qui est au cœur d'ailleurs du thème de cette année. Donc nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on en a planté beaucoup. On plante des haies, on avait aussi planté un verger. Donc voilà, en fait, chacun à son rythme et à sa façon va travailler dans cette thématique d'agriculture durable qui est très vaste, en fait. Mais voilà, moi, je peux en tout cas répondre pour la folie bergère de ce point de vue-là.
Et pour graines de pépinière, comment ça se traduit ?
Eh bien, nous aussi, on a beaucoup d'arbres sur la ferme. Déjà, je me suis installé chez un collègue qui est maraîcher, qui a planté un verger aussi. On a replanté des arbres. Moi, du coup, je produis des arbres aussi pour que tout le monde puisse planter ses arbres, récolter ses fruits. Et ça me paraît assez durable. Après, je pense que toutes les fermes qui sont là aussi, on reste petit, en fait. C'est aussi ça, pour moi, la durabilité. C'est d'avoir un beau maillage de petites fermes pour pouvoir vraiment vendre au plus proche et que les consommateurs ils sachent que ce qu'ils mettent dans leur assiette, ça vient juste à côté de chez eux.
Alors c'est ça, 2024, donc il y a un thème au niveau national, c'est la première fois. Le thème, c'est arbres et biodiversité. On sait que cette question des haies, effectivement, est primordiale, qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, qu'aujourd'hui, on est en train de faire la marche inverse. Oui, l'arbre, c'est... c'est important aujourd'hui, même on parle réchauffement climatique, enfin, c'est au cœur de toutes ces questions-là. Hein.
Oui, et puis c'est vraiment un atout. Nous, voilà, on a vraiment fait le choix de travailler, de faire de l'agroforesterie. Donc on plante, nous, des arbres dans nos champs, dans lesquels vont pâturer les moutons, mais également là où on va cultiver nos céréales pour alimenter les animaux. Donc il n'y a pas de concurrence, et au contraire, en fait, nous, ça va aussi apporter de l'ombre, en fait, aux moutons. Ça, c'est pour le bien-être animal. En termes de biodiversité, en termes de paysage, en termes de... Ça fait aussi comme une sorte de microclimat aussi pour préserver les cultures qui sont dessous. Donc nous, l'arbre, c'est un vrai allié sur notre façon de travailler. Et on a redécoupé aussi certaines parcelles qui étaient trop grandes dans notre façon de travailler. Donc on a aussi également replanté des haies. Et donc ça, effectivement, enfin, voilà, dans les enjeux qui nous attendent en termes de réchauffement climatique, ce sont des vrais alliés, ouais.
Et vous, à la pépinière, vous vous rendez compte justement de ce nouvel attrait, on va dire, ou ce retour de l'arbre dans la production ?
Oui, on est énormément, mais que ce soit partout en France, à s'installer en ce moment sur la pépinière. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui se passionnent pour ça, qui, dès qu'ils ont un peu de terrain, qui veulent replanter des arbres. C'est vrai que l'arbre, il a toujours été dans nos paysages. C'est que peut-être récemment qu'on a commencé à l'oublier avec nos grands champs, nos grandes monocultures. Et, alors qu'en fait, il ne faut pas grand-chose à l'arbre. un peu de soins les premières années, et puis après, il se débrouille, et puis il nourrit la faune, il capte le carbone. Enfin, la photosynthèse, c'est peut-être la plus belle chose qui existe sur cette terre, en fait.
C'est beau d'entendre des gens passionnés. Effectivement, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'accueil des gens? Est-ce qu'il y a un petit programme dans vos fermes?
Bah oui, je crois qu'on a tous prévu une façon d'accueillir les gens chez nous. Donc ça se déroule. Donc oui, effectivement, le samedi, ça commence à 14h, c'est de 14h à 18h. Et le dimanche, c'est de 10h à midi et de 14h à 18h. Donc nous, à la Folie Bergère, on a prévu de faire des visites de la bergerie. On a les agneaux, les derniers agneaux qui sont en train de naître, donc on va les laisser dans la bergerie pour pouvoir en faire profiter les gens qui vont venir nous voir.
Rassurés.
Ouais, c'est ça. Et puis voilà, un petit tour dans les jardins aussi, sur un peu là le démarrage de la saison de maraîchage. Et nous, on aura une expo photo pour le verger sur les fruits, parce que le verger est un petit peu éloigné du cœur de ferme, donc c'est un peu compliqué d'y amener les gens. Mais voilà, on va aussi leur parler forcément du verger, vu que c'est l'arbre qui est au cœur du sujet de cette année.
Et chez nous, il y aura une pièce de théâtre le dimanche après-midi qui sera jouée dans le verger à 14h, qui s'appelle le Pig Boy. Donc voilà.
C'est pas que de l'agriculture, c'est de la culture aussi.
Il y a quelques fermes aussi qui proposent la restauration sur leur ferme. Ça, toutes les infos donc, sont disponibles sur Internet. Il y a un Facebook, il y a un site internet de fermonferme.com. Et là, vous pouvez voir les fermes qui proposent aussi de la restauration sur place ou des spectacles. Mais c'est vrai que le cœur, c'est quand même les visites de ferme. Et...
Il y en a quand même une vingtaine, hein, c'est ça, dans le
25.
Quatre circuits, aux différents endroits du département, Châtel-Rodet, Seuil-du-Poitou, le Mont-Morillonnet, et puis autour du Chauvinois aussi, qui sont prévus. À qui ça s'adresse? Qui est-ce que vous voulez accueillir?
Tout le monde.
Ouais, un public familial.
Oui, tous ceux qui auront la curiosité de venir découvrir les fermes, voilà. C'est le moment. On accueille aussi le soleil.
C'est commandé pour...
Ça joue beaucoup sur ce genre d'événement.
Même s'il ne fait pas soleil, venez quand même. On a de quoi s'abriter.
Puis il y a besoin de pluie pour toutes les cultures. Donc 27 et 28 avril, le rendez-vous est pris. Vous, vous participez chaque année ou...
Oui.
Ouais.
Moi, c'est la
première. Ouais, vous vous installez.
Je suis installé depuis un an. Mais mon collègue, du coup, l'a déjà fait. Mais ce sera l'occasion d'avoir deux fermes sur le même lieu à visiter aussi.
Et vous, voilà, ce petit stress d'accueillir pour la première fois.
Ça va, je me repose un peu sur l'expérience de mon collègue. Mais ça va être vraiment chouette de partager ça aussi. Et puis là, les arbres commencent à être en feuilles. Ça va être bien joli.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Théo Guillon de la ferme Graines de Pépinière et Laurence Gauthier de la Folie Bergère, d'être venus nous parler cette cinquième édition de la Vienne de Ferme en Ferme, donc les 27 et 28 avril, et tout le programme effectivement en ligne pour avoir les détails. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
N'oubliez pas, demain c'est le Café de la Presse à 12h30 et tout de suite c'est l'heure de vos idées sorties. On commence par l'exposition « Les droits du futur » de la Fédération internationale pour les droits humains qui se termine aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Poitiers. Une exposition créée par la FIDH à l'occasion de son centenaire avec des photographies de l'agence Magnum. Aux archives départementales à 18h30, le Poitou Keto-Collé, c'est un premier rendez-vous. Mais qu'est-ce que le Poitou? Existe-t-il une identité poitevine? Si oui, par quoi la définit-on? Une langue, une zone géologique, une tradition musicale, les grands personnages et événements historiques? Ce sera un rendez-vous récurrent pour aborder l'histoire du Poitou proposé par les archives de la Vienne. Aujourd'hui, une table ronde sur la langue au cœur de l'identité poitevine par Jean-Christophe Dourdet, enseignant du Poitevin Saint-Onger du laboratoire Forelis à l'Université de Poitiers, et Yannick Jolin, qui est conteur et comédien. Il y a un débat aussi ce soir en vue des élections européennes par le mouvement européen, par les jeunes européens et par Europe Direct Vienne de Sèvres. C'est à 18h45 au Salon de Blossac, rue de la Tranchée à Poitiers, sur le thème « L'Europe, espace de droits et d'opportunités pour les jeunes ». Donc il y aura les représentants des listes candidates aux élections européennes. Le débat sera animé par Dominique Breillat, qui est professeur émérite de droit public. À l'approche du scrutin, les représentants des partis politiques présents seront invités à exposer leurs propositions et leurs positions pour la mandature à venir afin de permettre au public de mieux comprendre les enjeux et de voter en connaissance de cause. Rappel, le vote, c'est le 9 juin. Une rencontre enfin avec Sébastien Lifshitz à l'occasion de la sortie de son nouveau documentaire Madame Hoffman. C'est à 20h30 au Top Castille. Après avoir filmé Marie-Pierre alias Bambi dans le documentaire du même nom, Sacha en petite fille et Emma et Anaïs dans le très récompensé Adolescente, Sébastien Lifshitz donne la parole à Sylvie Hoffman, cadre infirmière qui a dédié 40 ans de sa vie à l'hôpital public et s'apprête à partir à la retraite. Donc Madame Hoffman, c'est un documentaire. Bienvenue dans ma vie, c'est cette phrase que Sylvie Hoffman répète à longueur de journée ou presque. Elle est cadre infirmière depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Sa vie, c'est courir entre les patients, sa mère, son mari et sa fille. Elle consacre ses journées aux autres depuis toujours. Et si elle décidait de penser un peu à elle, de partir à la retraite, en a-t-elle le droit, mais surtout, en a-t-elle vraiment envie ? Sur Pulsar, à 17h, c'est votre émission politique. Le Zoom, à 19h, Change Doers. À 20h, Metal Fury. Et à 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec du rock. C'est Blanco Teta, formé à Buenos Aires en Argentine en 2017. Blanco Teta, qui signifie Saint Blanc en espagnol, est un quatuor rock politique transféministe composé de 3 musiciennes argentines et d'un bassiste colombien. Le groupe développe un son expérimental basé sur l'agressivité et la simplicité du punk et sur l'apport original du violoncelle et se révèle avant tout dans ses performances scéniques. Voici le titre Isandiada. Bon après-midi.
Des limites à la liberté d'expression.
Point d'interrogation.
Avant c'était une mercerie, là. C'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment tout, ils crassent tout, ils changent tout. On sait plus où c'est qu'on en est, quoi. Dès que c'est transformé, on oublie ce qui était avant.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça.
Hein. Oui, oui.
Voilà.
Pulsar.
Pulsar.